L'exécutif annonce un soutien à l'embauche d'apprentis, communication bien rodée, 1 milliard d'euros apportés. Nous reviendrons sur les mesures et sur le calendrier pour sauver plus généralement l'emploi en France. Calendrier proposé aux partenaires sociaux hier.
Et puis nous vous expliquerons ensuite le plan de relance européen et son enveloppe. Plus de 1000 milliards d'euros finalement, ce n'est pas énorme, vous le comprendrez.
Et puis nous reviendrons sur la guerre amorcée entre Donald Trump et les réseaux sociaux alors qu'hier aux États-Unis, un hommage était rendu à George Floyd, tué par un policier. Après ce journal, Guillaume, la question du jour.
Eh bien, des nouvelles du virus, de la Covid-19. Le virus se fait de plus en plus discret. On en parlera avec le professeur Jonathan Freud, médecin urgentiste à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ça sera dans une dizaine de minutes, Clara.
Syndicats et patronats étaient donc reçus hier tout l'après-midi par Emmanuel Macron et Édouard Philippe pour parler emploi, pour sauver l'emploi, selon les mots utilisés par l'exécutif. Le sujet était vaste et la réunion longue, Catherine Pétillon.
4 heures d'échange, cette fois sur place à l'Élysée, beaucoup de sujets abordés et presque autant de concertations annoncées avec les partenaires sociaux. Ils se retrouveront dès la semaine prochaine avec la ministre du Travail pour discuter du chômage partiel avec un double objectif. D'abord, définir un nouveau cadre durable pour ce dispositif qui ne cesse d'évoluer depuis le début de la crise. L'État ne peut pas durablement payer les salaires de millions de personnes dans le secteur privé, a rappelé Muriel Pénicaud. Elle discutera donc avec les syndicats des critères d'accès, de la part prise en charge par l'État, des possibilités de diminution du temps de travail, en somme, des règles du chômage partiel post-Covid. Les partenaires sociaux devront aussi se prononcer sur les règles du futur dispositif d'activité partielle dit longue durée, qui doit permettre aux entreprises de baisser le temps de travail ou les salaires avec l'aide de l'État, à condition de maintenir l'emploi. Sur la réforme de l'assurance chômage, dont les syndicats demandent depuis des semaines le retrait, le président s'est cette fois dit ouvert à la modification de certaines règles au vu de la situation. Une maigre ouverture donc, les discussions annoncées devront aboutir d'ici l'été. 2 autres chantiers sont ouverts, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes. À partir de la mi-juin, les discussions porteront sur la manière de répondre spécifiqument aux difficultés des plus de 700 000 jeunes qui sortiront cette année du système scolaire.
Car en effet, le ministère du Travail a fait de l'apprentissage sa réforme phare sur laquelle il ne cesse d'ailleurs de communiquer. Il l'a faite encore hier. Catherine, les seules annonces concrètes concernaient d'ailleurs un plan de relance pour le secteur.
C'est plus d'un milliard d'euros que le gouvernement annonce comme nouvelles aides aux entreprises avec ce plan de relance de l'apprentissage. Pour toute embauche d'un apprenti entre le 1er juillet et le 28 février, le gouvernement leur promet une aide de 5 000 euros par mineur et 8 000 par majeur, une aide versée automatiquement pour tout contrat signé du CAP à la licence pro. Et cela sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés. Les plus grosses, elles, devront atteindre les 5% d'alternants dans leurs effectifs en 2021, sous peine de devoir rembourser l'aide. Les demandes des entreprises ont donc été entendues. L'objectif, c'est qu'embaucher un apprenti ne coûte rien, explique le ministère du Travail. Ces dépenses seront intégrées dans le projet de loi de finances rectificative présenté la semaine prochaine. Autre mesure, le gouvernement pérennise la possibilité pour les jeunes de rester dans un centre de formation, un CFA, jusqu'à 6 mois, le temps de trouver un contrat avec une entreprise, contre 3 mois avant le début de la crise. La ministre du Travail explique aussi vouloir une mobilisation territoriale pour faire en sorte que tous ceux qui ont fait le vœu d'une formation en apprentissage, via Affelnet ou Parcoursup, se voient proposer une offre. Plus largement, un plan pour l'emploi des jeunes est attendu pour la première quinzaine du mois de juillet.
C'était Catherine Pétillon qui suivait pour nous hier cette réunion emploi au sommet de l'État. Pour ce plan-là, les chiffres peuvent faire tourner la tête. La Banque Centrale Européenne a annoncé hier le quasi-doublement de son plan spécial pandémie. Ce ne sont plus 750 milliards d'euros, mais 1350 milliards d'euros qui seront mis sur la table par l'Union, notamment pour acheter des titres de dette publique des États de la zone euro. Cela leur permettra d'emprunter plus facilement pour obtenir leur déficit et pour financer leur déficit. 1350 milliards, cela peut paraître beaucoup, mais ce n'est pas énorme comparé à d'autres efforts. C'est ce que souligne Alexandre Baradez, analyste CIG.
Ce que fait la BCE n'est pas, d'un point de vue des montants, n'est pas choquant. Ce sont des gros montants, mais si on compare par exemple avec des banques centrales d'autres grosses zones économiques, on compare avec la Fed par exemple aux États-Unis, la Fed depuis le début de la crise sanitaire, donc fin février, début mars, elle a ajouté 3 000 milliards à son bilan. C'est-à-dire qu'elle a acheté des actifs à hauteur de 3 000 milliards, qui est absolument colossal. La BCE, sur cette même période, n'a pas acheté plus de 1 000 milliards d'actifs, donc son bilan n'a pas grossi de plus de 1 000 milliards. Donc vous voyez, la Fed a fait croître son bilan trois fois plus rapidement que la BCE au cours de la période. Donc il y a ça aussi qui se joue en fait. Il y a aussi des questions de compétitivité entre zones économiques. Si la BCE va trop lentement, ben, quand la Fed envoie de la liquidité comme ça sur les marchés, ça soutient les entreprises américaines, ça soutient le tissu économique américain, et ça pose donc aussi des questions de compétitivité. Si les entreprises américaines sont mieux armées, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles peuvent venir faire leur marché sur les entreprises qui seront décotées en zone euro, sur les marchés, ou via du private equity ou autre. Donc il y a aussi des questions comme ça qui doivent se poser, parce que si tout le monde fait de la relance, mais qu'on fait moins de relance que les autres, le risque il est que l'on perde de la compétitivité au sein d'une zone économique par rapport à la Chine ou par rapport aux États-Unis.
Des propos recueillis par Marie Viennot. L'Europe encore qui petit à petit rouvre ses frontières en interne. Il en sera question aujourd'hui à Bruxelles, car pour le moment, chacun fait un peu comme il veut, Louise Baudet.
Il y a d'abord les fameuses bulles de voyage, pays peu touchés par la pandémie qui se mettent d'accord pour rouvrir leurs frontières. Les États baltes, Estonie, Lettonie, Lituanie s'y sont mis, tout comme les Hongrois, Tchèques et Slovaques en Europe centrale. Au nord, les pays scandinaves en avaient bien envie, mais sans la Suède qui n'a pas confiné, infréquentable donc sur le plan sanitaire, mais incontournable sur le plan géographique, cette bulle-là a donc explosé. Et puis il y a les réouvertures à la carte, l'Autriche par exemple, qui a hier subitement rouvert toutes ses frontières, sauf côté italien, oui, en somme, aux touristes venus découvrir Vienne ou le Tyrol, pas à ce filant vers le soleil des côtes méditerranéennes. Et c'est bien là le sujet, le tourisme, crucial pour l'Italie qui depuis avant-hier accueille les visiteurs à bras ouverts. L'Espagne devait attendre le 1er juillet, mais tergiverse. Quant à la liste des pays dont les ressortissants sont bienvenus en Grèce, elle s'allonge à vue d'œil, pendant qu'à Bruxelles, on tente de coordonner cette somme d'exceptions devenue la règle, au détriment de l'un des principes fondateurs de l'Union européenne, la libre circulation dans l'espace.
Fin de partie pour l'étude de controversée qui doutait de l'hydroxychloroquine. Elle est finalement vidée de sa substance après la rétractation hier de trois de ses quatre auteurs. Ils concluaient fin mai que l'hydroxychloroquine pouvait être néfaste. Rien ne le prouverait finalement, mais rien ne prouve encore qu'elle soit bénéfique. Les essais de l'OMS vont reprendre.
7h07 à Poudlard, comme sur France Culture, les fractures apparaissent dans le camp de Donald Trump aux États-Unis.
Les militaires, les évangélistes et maintenant certains élus conservateurs se détournent du président américain. La gestion de la crise après la mort de l'afro-américain George Floyd n'a pas convaincu. Donald Trump, boudé par certains, et notamment aussi par les réseaux sociaux, Claude Guibal.
La guerre ouverte a débuté la semaine dernière après que Twitter a pour une première fois masqué un tweet de Donald Trump. Lorsque les pillages commencent, les tirs commencent. Un message interprété comme une incitation aux forces de l'ordre à faire usage de leurs armes. Un message que Twitter a cependant laissé en ligne, bien que masqué, disant qu'il était dans l'intérêt du public qu'il puisse être vu. C'est le même raisonnement que tient aujourd'hui Snapchat, qui tout en laissant en ligne les publications de Donald Trump, ne veut plus les promouvoir en les propulsant en une. Furieux d'avoir été masqué par Twitter. Donald Trump a contre-attaqué la semaine dernière en signant un décret pour réguler les réseaux sociaux qu'il accuse de censure et d'atteinte à la liberté d'expression. Un décret en attendant de faire évoquer par le Sénat la section 230, un article de loi qui protège l'immunité des réseaux sociaux. Une bataille qui plonge aujourd'hui Facebook, le premier réseau social du monde, dans la tempête, une véritable fronde interne, alors que son fondateur Mark Zuckerberg a refusé de réagir aux publications de Donald Trump en disant qu'elle n'enfreignait pas les règles de Facebook. Plusieurs cadres et ingénieurs ont démissionné cette semaine en accusant Mark Zuckerberg de chercher à fuir les foudres des républicains pour ne pas que Facebook soit régulé.
Nous l'évoquions à l'instant, les critiques autour de la mort de George Floyd outre-Atlantique. Hier, l'heure était au recueillement lors d'une cérémonie en forme d'éloge funèbre à Minneapolis. Famille, responsables politiques, religieux, célébrités, tous étaient rassemblés pour honorer la mémoire de cet Afro-Américain mort, je vous le rappelle, asphyxié par un policier il y a 2 semaines. Et puis notez qu'en France, les rassemblements se poursuivent également contre les violences policières. 2000 personnes ont manifesté hier à Lille avec quelques tensions face aux forces de l'ordre. Pour la première fois, la Cour européenne a condamné la France en matière de protection des mineurs. L'État français est responsable, selon la Cour européenne, de la mort de Marina Sabatier, 8 ans, petite fille, maltraitée par ses parents qui manquaient souvent l'école. Malgré un signalement à la justice en 2008, son dossier avait été classé sans suite. Elle est morte l'année suivante. Marie-Pierre Colombel préside l'une des associations de protection de l'enfance, Enfance et Partage.
Je crois que j'ai eu un sentiment de soulagement, de grande émotion. On a saisi la Cour européenne des droits de l'homme en avril 2015. Donc vous voyez, ça fait 5 ans. On s'est dit que ça en valait la peine et qu'on pouvait pas la laisser tomber. Alors ça va changer beaucoup de choses, parce que là, on se retrouve, c'est de la jurisprudence, hein. Maintenant, l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, on se rend compte que à chaque fois qu'il y aura dysfonctionnement dans notre système, on va pouvoir le crier haut et fort, et on aura avec nous cet arrêt de la Cour européenne. Ça va nous aider dans nos combats futurs, bien évidemment.
C'était Marie-Pierre Colombel interrogée par Margot Delpierre. Précisons que les parents, eux, avaient été condamnés en 2012 à 30 ans de réclusion criminelle. Les règles sont légèrement assouplies aujourd'hui dans les EHPAD. Les visites de plus de deux personnes à l'extérieur de la chambre ou de deux personnes maximum dans la chambre du résident sont autorisées. Partons maintenant en forêt où se joue une tempête silencieuse. L'ONF alerte pour préserver les épicéas en ce moment. Ces arbres sont ravagés par le scolyte, un insecte dont la prolifération est favorisée par le réchauffement climatique, les sécheresses et la monoculture qui est fréquente pour les épicéas. Explication ce matin d'Evrard de Turckheim, expert forestier et président de ProSylva France.
La forêt est en grande difficulté actuellement de par le fait de ces sécheresses. Le réchauffement favorise clairement la prolifération du scolyte qui attaque principalement l'épicéa. C'est un petit coléoptère, un insecte, qui se reproduit sous l'écorce des arbres. Donc quand il fait sec, ça affaiblit aussi l'arbre. Et donc l'arbre n'est pas en capacité de se bagarrer, de résister et de contrer cette épidémie. Quand vous êtes malade, c'est pas parce que vous avez croisé le coronavirus, c'est parce que vous êtes dans un état de fatigue, vous avez un certain âge. La forêt, c'est exactement la même chose. C'est un organisme vivant. Donc quand il y a une attaque qui arrive, l'organisme, la forêt est capable de l'encaisser. Quand il y a une multitude de choses qui arrivent, ça perturbe l'organisme et donc il y a ces affaiblissements ou ces morts. Il est clair qu'on a multiplié l'épicéa de façon très importante parce que c'est une essence qui se plante facilement, qui est demandée par l'aval de la filière, qui est une essence de montagne. On l'a plantée aussi dans les plaines, on l'a plantée un petit peu sur n'importe quel sol et ça a bien fonctionné pendant un certain nombre d'années. Maintenant, simplement, le climat devient un tout petit peu plus difficile et donc l'épicéa en premier souffre et on assiste à des dépérissements massif. Je m'occupe de forêts en Lorraine où pratiquement l'épicéa disparaît de la carte.
C'était une inquiétude recueillie par Véronique Roberotte en cette journée mondiale, je le souligne, journée mondiale de l'environnement ce vendredi. Et voilà qui nous emmène tout droit vers la météo. Les terres respirent un petit peu avec la pluie de ces derniers jours. Le temps restera d'ailleurs humide aujourd'hui avec 14 à 21 degrés du nord au sud.